Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Savez-vous que nous sommes dans une année de la famille? En effet, il y a 5 ans, le pape François a écrit à Maurice Laetitia la joie de l'amour, et il désire en cette année que toute l'Église fasse un peu le point sur la manière dont elle a reçu ce texte. Comme quoi il n'est jamais trop tard pour lire un document du Saint-Père. Essayez de vous y replonger peut-être dans les prochains jours. C'est un texte qui évidemment met au cœur l'amour de l'homme et de la femme, image de l'amour de Dieu pour l'humanité, image de l'amour du Christ pour l'Église. Oui, vous, hommes et femmes mariés, vous portez cette mission de révéler au monde l'amour de Dieu. Et puis le pape prend ensuite chaque situation pour que pastoralement nous puissions accompagner les personnes, en particulier ceux qui souffrent. Revenons à ce texte. Le Saint-Père a raison, nous ne l'avons pas complètement lu, nous n'appliquons pas complètement ce qu'il nous recommande. Dimanche de la Sainte Famille. Il me semble que les textes qui nous sont offerts ce dimanche pourraient paraître à un certain nombre irrecevables. Le premier, parce que c'est la mère, Anne, qui décide de ce que va faire son fils Samuel. Imaginez que l'un de vous fasse cela aujourd'hui. Je pense que l'enfant protesterait, peut-être pas dans son enfance. Et pourtant, c'est vrai, il n'y a pas si longtemps que cela, des parents décidaient, sans doute avec la meilleure volonté du monde, de ce que ferait son enfant, leur enfant. Et puis, l'Évangile, on nous présente la Sainte Famille comme modèle. Et là, Jésus ne tient pas compte de ses parents à 12 ans. Il fait son chemin, il reste à Jérusalem alors que Marie et Joseph sont sur le chemin de retour. Parole de Dieu un peu difficile à entendre aujourd'hui. Quelle leçon, quel enseignement pouvons-nous recevoir de cette parole? Eh bien, à travers le livre de Samuel, nous découvrons donc une mère qui décide pour son enfant, mais il faut sans doute remonter à l'origine de cette décision, et vous l'avez compris, Elkana et Anne n'arrivaient pas à avoir un enfant. Nous fêtons la Sainte Famille aujourd'hui et nous pensons à tous ces couples qui doutent de leur fécondité. Nous les accompagnons de notre prière pour qu'ils croient et qu'ils découvrent que de toute façon, Dieu leur donne une fécondité. Que si ce n'est pas celle de la chair et du sang, il y en a certainement une autre qui leur est promise et qu'ils doivent accomplir. Tout amour humain d'un homme et d'une femme trouve une fécondité. Et ce texte du premier livre de Samuel nous dit que cette fécondité, quelle qu'elle soit, même si elle est de chair et de sang, toute fécondité vient de Dieu. Et c'est parce que Dieu répond à la demande d'Anne que celle-ci, par avance, lui a fait la promesse que ce fils, cet enfant qu'il lui donnerait, lui serait consacré. Ce texte nous pose une question pour notre époque. Nous avons entendu par les médias et par un certain nombre de penseurs, philosophes, que nous sommes dans une époque où il est bon que nous déterminions nous-mêmes qui nous voulons être. C'est la fameuse théorie du genre où finalement quelqu'un peut refuser le sexe dans lequel il est né. Est-ce que nous avons ainsi à choisir qui nous voulons être complètement? Ou est-ce qu'il nous faut de toute façon assumer notre histoire, notre origine, ce que nous sommes? Je crois que si nous allons dans ce sens-là, dans quelques années, nos députés voteront une loi pour que nous ne donnions plus de prénom à un enfant, mais que celui-ci le choisisse à l'âge de raison. C'est vrai. Pourquoi imposer à quelqu'un un prénom? La parole de Dieu nous situe autrement. Nous recevons un héritage de notre famille, de notre éducation et de la nature qui nous a faite, Dieu à l'origine de cette nature. Qu'en faisons-nous? Sommes-nous libres de tout rejeter ou au contraire de tout assumer? La grandeur de l'homme, quelle que soit la situation qu'il traverse, c'est justement de faire avec ce qui lui advient, mais pour rebondir, pour trouver dans l'épreuve un enseignement, pour trouver dans l'épreuve un tremplin. La grandeur de l'homme, c'est de faire de son histoire un chemin ouvert, une relation aux autres. Et vous le savez bien, parce que la plupart d'entre nous ont traversé des épreuves, une épreuve peut être une chance pour être sensible aux autres, parce que nous sommes dans une communion de souffrance. Une épreuve peut être une chance pour porter secours à d'autres, parce que précédemment, nous avons vécu la même épreuve. Que faisons-nous de ce que nous avons reçu en héritage? Notre nature, notre caractère, notre histoire, notre éducation, qu'en faisons-nous? Voulons-nous tout balayer en disant que ce n'est que perte? Ou voulons-nous assumer comme un trésor ce que nous avons reçu et faire de ce que nous avons reçu une chance, une piste d'envol? En tous les cas, Samuel, il n'a pas renié ce don de sa mère à Dieu. Il est devenu le grand prophète Samuel. Et dans le texte, on nous dit même ce que veut dire son prénom, Dieu exauce. Dieu n'a pas seulement exaucé Anne en lui donnant un fils. Dieu a exaucé le peuple d'Israël qui cherchait un guide, un prophète. Il a été le grand prophète qui a guidé le peuple d'Israël pendant de nombreuses années. Si Samuel s'était déterminé par lui-même, je ne suis pas sûr qu'il aurait correspondu autant au chemin de vie que Dieu voulait pour Israël. Il y a cela aussi à retenir de cette histoire, que si nous nous confions à Dieu, si nous faisons confiance à ce que nous avons reçu, il y a de grandes chances qu'au-delà de notre petite volonté, nous répondions plus largement encore à l'histoire du salut qui s'opère parmi nous et dont Dieu est le guide et le maître. Première leçon, essayons d'assumer ce que nous sommes pour grandir avec notre histoire et ce que nous avons reçu. Deuxième enseignement, c'est l'Évangile. On pourrait presque prendre cet Évangile à rebours de ce que je viens de dire, de cette leçon que nous donne le premier livre des Rois. Jésus, finalement, semble ne pas assumer son histoire. Il fuit Joseph et Marie. Il reste à Jérusalem pour inventer une autre histoire. Est-ce ainsi qu'il faut lire ce récit? Je ne pense pas. Mais le Christ nous apprend une chose pour nous-mêmes, indépendamment de sa propre histoire, c'est que si nous voulons écrire notre propre histoire avec ce que nous avons reçu, il nous faut être attentifs à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous donne au jour le jour. Finalement, en restant dans le temple de Jérusalem, Jésus indique à Marie et Joseph qu'il n'est pas seulement leur fils, celui qui leur a été confié, il est aussi celui qui est un don de Dieu, celui qui se met à l'écoute de son Père. Et quel autre lieu choisir pour écouter Dieu que le temple de Jérusalem, signe au milieu de son peuple, signe de la présence de Dieu. Jésus est là, il écoute son Père lui parler et il va répondre à son Père en s'offrant. Le temple de Jérusalem est également le lieu de l'offrande des fidèles. Jésus montre l'exemple en s'offrant lui-même dès 12 ans. Vous savez que pour un juif, 12 ans, c'est l'âge de la majorité. On peut choisir ce que nous devenons avec tout l'héritage de ce que nous sommes. Nous apprenons de cette fugue de Jésus, si l'on peut appeler ainsi, puisque en fait, il n'a pas fui, il est resté, il est demeuré. Nous apprenons de ce séjour de Jésus dans le temple à écrire notre propre histoire en collaboration avec Dieu, en écoutant ce que Dieu nous dit. Et je ne sais pas si vous avez une méthode pour écouter ce que Dieu dit. Ce que nous indique un maître comme saint Ignace, c'est d'ouvrir la Bible en demandant à l'Esprit Saint de nous guider. Ce n'est pas notre doigt qui va tomber sur une phrase au hasard. C'est cette écoute de la parole de Dieu avec l'Esprit Saint comme conseiller qui va nous permettre d'ouvrir notre cœur et notre esprit à ce que Dieu nous dit. Il est primordial de demander d'abord l'Esprit Saint et puis ensuite de nous mettre à l'écoute de la parole. Le Verbe fait chair. Eh bien, essayons dans ces prochains jours, en assumant notre histoire, de demander au Seigneur ce qu'il veut que nous fassions avec lui. Quelle collaboration nous devons engager avec lui pour être au-delà de nous-mêmes une pièce maîtresse dans l'histoire du monde, une pièce maîtresse dans l'histoire de notre communauté humaine ou de notre communauté chrétienne. Nous ne savons pas quel pas le Seigneur veut faire avec nous et quel pas il veut nous voir faire avec lui. Mais nous savons que l'histoire qu'il écrit avec nous est plus grande que notre petite volonté. Elle est plus grande que ce que nous imaginons. Si nous correspondons à ce que Dieu nous dit, alors de grandes pages peuvent s'écrire avec ce que nous sommes, encore une fois, avec ce que nous sommes. Pour conclure, je voudrais vous inviter à formuler une demande au Seigneur quant à votre famille. Une demande. Et puis, nous n'en resterons pas aux demandes parce que le Seigneur a déjà tellement donné. Essayez aussi de trouver dans votre histoire et dans votre famille une raison de lui rendre grâce. Une raison d'une joie que vous cueillez dans votre famille. Amen.